Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1947, par la voix de la radiodiffusion française, Francis Carco évoque Max Jacob. C'était dans le cadre d'une émission intitulée « Ombre vivante ». De son ami Max Jacob, l'auteur de « Jésus Lacaille », fait un portrait affectueux et amusant. Un portrait qui se finit aussi laconiquement que s'était terminée tragiquement moins de 3 années plus tôt la vie de Max Jacob. En 1960, Max Jacob a été élevé à titre civil au rang de poète mort pour la France. Cela sonne étrangement. Qu'est-ce donc qu'un poète qui meurt pour la France ? Peut-être Max Jacob est-il mort pour la France ? Oui, peut-être. Mais il est mort de la France tout de même un peu, d'avoir été abandonné par elle, et peut-être aussi par ses amis, persécuté, humilié par un État français prêtant la main avec entrain à l'occupant nazi. Mort malade de fatigue et de douleur, à Drancy, d'avoir vu partir son frère et sa sœur Myrthe et Léa, assassinés à Auschwitz. Alors ne serait-il pas plus juste de dire de Max Jacob qu'il fut un poète français, breton, homosexuel et catholique, qui, dans la nuit du 5 au 6 mars 1944, est mort avant son heure d'avoir été juif.
J'ai connu Max Jacob à Montmartre, autant qu'il habitait une espèce de serre dans la cour du 7 de la rue Ravignan. C'était un personnage vraiment extraordinaire, qui tenait à la fois du petit maître, du bel esprit, du kabbaliste et du broco de province, membre d'une société savante dont il se flattait d'être pour nous éberluer. Le fond de sa nature le portait alors à semer dans le cercle des gens qu'il fréquentait l'étonnement, la confusion, le trouble, sans négliger toutefois, par ses façons flatteuses et empressées, de provoquer puis d'entretenir la sympathie. Gazette vivante de son quartier, il s'employait tout aussi bien à vanter les mérites de son ami Picasso qu'à colporter sur le compte des locataires de son immeuble sans propos facétieux. Les signes du zodiaque reproduits sur les murs de sa chambre à la craie verte et rouge lui valaient aux yeux des concierges et des femmes de ménage qu'il allait consulter la réputation d'un fabricant d'horoscopes hors de pair qui, pour une modeste somme, interprétait tous les présages et vous mettait en garde contre l'adversité. « C'est 2 francs, disait Max, en tendant à l'intéresser la transcription de ses calculs. Puis il s'informait à qui le tour. Avec tant de narquoise et pétillante malice, qu'en dépit de l'autorité qu'il possédait dans ce milieu, la brave femme qui venait de lui allonger 40 sous se sentait tout à coup prise d'un doute et se retirait déconcertée. Le fils de sa pipelette, ayant pour une créature déserté la loge maternelle, Max s'était engagé à le ramener dans le droit chemin. Fernand, pense à ta mère, allait-il fréquemment dire à ce fils indigne dans un hôtel de passe du boulevard de la Chapelle. « Ouais, répondait Fernand. » Max, que j'accompagnais parfois dans ses démarches, levait alors les bras au ciel et soupirait découragé, « Fernand s'en fout !» Et il fredonnait ironiquement cette chanson de circonstance, « Zaza, c'est une femme pour qui les hommes sont des joujoux, des pantins. » On dit qu'elle est infâme, malheur à qui la rencontre sur son chemin. Zaza, c'est l'enjôleuse qui vend son corps mais sans jamais rien nous donner. Zaza, c'est une gueuse, une menteuse qui fait pleurer. Lorsque la concierge, anxieuse, lui demandait au retour ce que son garnement de garçon avait pu objecter, le moment n'est pas venu, expliquait Max. « Mais il viendra. Faites-moi confiance. » Puis de son air le plus contrit, il ajoutait « Dieu nous aidera ». Et concluait, après avoir gagné son gîte et changé de chapeau, « Mission terminée. À nous, Montmartre !» J'appris ainsi qu'il possédait un nombre surprenant de chapeaux qui lui servaient tantôt à aller dans le monde, et c'était un constat, tantôt chez des gens, comme il disait avec un rien de condescendance, et c'était un melon. Un ami lui ayant fait don par plaisanterie d'une série de ces petits melons plats à la mode vers 1900, il les mettait à tour de rôle pour effectuer le matin des emplettes chez ses fournisseurs ou pour vaquer dans sa resserre à diverses occupations. Un conte qu'il avait écrit et récité parfois quand on l'en suppliait consistait dans une seule et unique phrase, mais qui permettait après tout de le situer dans son cadre sur la vieille lande bretonne, avec ses filles en coiffe et ses gars en blouse, par un jour gris d'hiver. Comme on s'était trompé de route, on dut recommencer l'enterrement. Je suis retourné sur la butte, c'est pour mieux évoquer Max que je suis entré à l'angle de la rue des Abbesses et de la rue Ravignan dans le bar au Bouquet de Montmartre où je l'avais jadis tant de soirs attendu alors qu'il revenait à pied de multiples démarches presque toujours infructueuses auprès de ceux qu'il appelait pompeusement ses éditeurs. Max arrivait par la rue Lepic. Je le reconnaissais de loin à son ciré doublé de molleton rouge et à son chapeau au large bord qu'il portait de côté sur le crâne à la façon d'un homme de cirque ou d'un marchand forain. Ajoutez à cela je ne sais quoi d'ironique et d'évaporé dans la physionomie, d'ouvert, d'aimable, d'astucieux tout ensemble et par la suite de clérical, comme il en convenait lui-même honnêtement, et vous aurez, je crois, une image approximative de notre ami. Conte poète, voici des vers faits à sa ressemblance. Dis-moi, quelle fut la chanson que chantaient les belles sirènes pour faire pencher des trirèmes les Grecs qui clachaient l'aviron? Achille qui prit Troie, dit-on, dans un cheval bourré de son, Achille fut grand capitaine. Or, il fut pris par des chansons que chantaient les vierges Hélènes. Dis-moi, Vénus, je t'en supplie, ce qu'était cette mélodie. Un prisonnier dans sa prison en fit une en tripolitaine, et si belle que sans raison, on le rendit à sa marraine qui pleurait contre la cloison. Nausicaa à la fontaine, Pénélope en tissant la laine, Zeuxis peignant sur les maisons, ont chanté la faridondaine. Et les chansons, des échansons, écho d'écho des longues plaines, et les chansons des émigrants, où sont les refrains d'autres temps que l'on a chantés tant et tant? Où sont les filles aux belles dents qui l'amour par les chants retiennent? Et mes chansons, qu'ils m'en souviennent. Voici encore une petite pièce que Max avait écrite comme en se riant de lui-même dans le cornet à dés. La mode étant alors de préférer Fantômas et le roman feuilleton aux œuvres de Stendhal ou de Flaubert, Max s'en raillait si bien qu'il mettait aussitôt les rieurs de son côté. Et quelle verve, quelle cocasserie, je vous fais juge. Donc une auto s'arrêta devant l'hôtel de Chartres. Savoir qui était dans cette auto, devant cet hôtel, si c'était auto, si c'était hôtel, voilà ce que vous voudriez bien savoir, mais vous ne le saurez jamais. La fréquentation des Parisiens a fait beaucoup de bien aux hôteliers de Chartres, mais la fréquentation des hôteliers de Chartres a fait beaucoup de mal aux Parisiens pour certaines raisons. un garçon d'hôtel prit les bottes du propriétaire de l'auto et les cira. Ces bottes furent mal cirées. Car l'abondance des autos dans les hôtels empêchait les domestiques de prendre les dispositions nécessaires à un bon cirage de bottes. Fort heureusement, la même abondance empêcha notre héros d'apercevoir que ses bottes étaient mal cirées. Que venait faire notre héros dans cette vieille cité de Chartres qui est si connue? Il venait chercher un médecin, parce qu'il n'y en a pas assez à Paris pour le nombre de maladies qu'il avait. Ou encore, ils étaient aussi gourmets, M-E-T-S, que gourmets, M-E-S, le monsieur et la dame. La première fois que le chef des cuisines vint un bonnet à la main leur dire « Excusez-moi, est-ce que monsieur et madame sont contents ?» On lui répondit « Nous vous le ferons savoir par le maître d'hôtel. » La seconde fois, ils ne répondirent pas. La troisième, ils songèrent à le mettre dehors. Mais ils ne purent s'y résoudre, car c'était un chef unique. La quatrième fois, mon Dieu, ils habitaient aux portes de Paris. Ils étaient seuls, toujours. Ils s'ennuyaient tant. La quatrième fois, ils commencèrent. La sauce au capre était épatante. Mais le canapé de la perdrix était un peu dur. On en arriva à parler sport, politique, religion. C'est ce que voulait le chef des cuisines, qui n'était autre que Fantômas. Dans un domaine tout différent, Théo Briand, qui l'avait adopté, rapporte qu'après la messe du dimanche 5 septembre 1920, et il note 5, nombre fatidique dans la vie de Max, celui-ci s'était amusé à relever ses curieuses raisons sociales, parfumerie des martyrs, boucherie, pharmacie des martyrs, que les enseignes de la rue du même nom mentionnent en grosses lettres au-dessus des boutiques. Le cher Max portait ce jour-là un veston de velours sombre. Sa calvitie était déjà totale. Et je remarquai, poursuit le narrateur, ses mains d'une grande finesse et où les quatre lignes étaient à peu près inexistantes. « Je dois être maudit pour trois raisons », aurait confessé Max. « Je n'ai pas de ligne dans la main, j'allume mes cigarettes avec le soufre des allumettes, et ma colonne vertébrale se termine comme celle de Belzébuth. Va pour les lignes et pour le soufre. » Mais le plaisir qu'éprouvait Max à mystifier ses interlocuteurs l'a très probablement poussé à passer la mesure dans la troisième de ses révélations. Car, ajoute Briand, il riait à moitié en me disant cela. On riait encore, grâce à Dieu. Apollinaire le faisait longuement, largement, à gorge déployée, en homme que les bizarreries de l'existence emplissent de jubilation. Chez Max, il y avait plus de moquerie et de malignité que de véritable bonne humeur dans ses accès d'hilarité, où c'était fréquemment au goût de la bouffonnerie qu'il cédait au moment qu'on s'y attendait le moins. Semblait l'entendre en surveillant du bar les allées et venues des piétons. C'étaient les mêmes effalotes présences de commerçants, de flics, de filles, d'artisans et de ménagères qui, le long des trottoirs, circulaient librement. Un peu plus terne, peut-être, un peu plus vague, depuis que le rayonnement qui émanait de Max s'était éteint. Aucun de ces passants n'avait sans doute gardé de lui un souvenir bien net. Mais je me rappelais ces façons étonnantes d'aborder les gens dans la rue, de leur parler, de s'intéresser à leurs tâches, puis de les laisser ébahir, flatter de toutes ces gentillesses. Qui n'a pas vu Max approcher d'une vieille dame, par exemple, et l'aider subitement à traverser la chaussée, ne peut se faire l'idée de ces 1000 séductions. Il s'en moquait certes lui-même, tout aussitôt. Et vissant son monocle sous un épais et noir sourcil, Il me rejoignait d'un pas alerte et sautillant. Je devais le retrouver plus tard, rue Gabriel, dans une courette sordide, sur laquelle prenait jour l'unique fenêtre de son rez-de-chaussée. Max y vivait en compagnie du peintre Maclay, qui, ne sachant alors où dormir, couchait la nuit sur le lit du poète, et le lui restituait d'ailleurs sans objection, quand ce dernier revenait à son domicile, après avoir communié à la première messe du matin. Le jeudi 24 février 1943, Max fut arrêté par 3 agents de la Gestapo dans sa modeste chambre de Saint-Benoît-sur-Loire. On le dirigea le jour même sur la prison d'Orléans et il y demeura jusqu'au lundi par un froid sibérien. C'est là que l'infortuné contracta le mal qui devait l'emporter, nous apprend l'excellent Théo. Les détails de sa fin sont connus. Ce sinistre lundi, on l'embarqua dans le train du Drancy. Durant le voyage qui s'annonçait pour tous, comme le prélude à la déportation, Max écrivit 2 lettres, l'une au curé de Saint-Benoît, l'autre à son vieil ami Conrad Morican, d'une écriture à peine reconnaissable. La seconde de ces lettres était ainsi conçue. Je t'écris dans le wagon qui me mène à Drancy, que la volonté de Dieu soit faite. Et le lendemain de son arrivée à la cité de la Muette, il entrait à l'infirmerie. Le jeudi 2 mars, le mal fit subitement des progrès effrayants. Max Jacob agonisa pendant de longues heures et mourut le dimanche 5, nombre fatidique dans sa vie, sans avoir repris connaissance. Voici le texte du billet qu'il put faire parvenir au curé de Saint-Benoît. Cher monsieur le curé, excusez cette lettre de naufragé écrite par la complaisance des gendarmes. Je tiens à vous dire que je serai à Drancy tout à l'heure. J'ai des conversions en train. J'ai confiance en Dieu et dans mes amis. Je le remercie du martyre qui commence. En des temps moins horribles, je suis de ceux qui se convertissent d'avance, m'informait-il de Quimper, sur papier à en-tête de l'hôtel de l'Épée. Et il ajoutait avec cet air de persiflage qu'il prenait alors volontiers, « As-tu quelqu'un à convertir? Éprouves-tu le besoin de faire des conversions? J'en suis, me voici, je suis l'homme des conversions. Hélas, pas seul des titres russes. » L'arrestation de sa sœur, souligne André Billy dans le petit ouvrage qu'il vient de lui consacrer, l'avait anéanti. Cette chère pauvre petite, pourquoi l'avoir emmenée? Elle était si douce. Comment va-t-elle supporter pareille épreuve? Que faire pour elle? Hélas, je ne puis que prier. Et les larmes ruisselaient de ses yeux. Chaque soir, après le salut, il parlait d'elle, s'effrayant à l'idée que, faute d'avoir la foi, elle ne trouverait pas d'adoucissement dans la prière. Lui-même ne doutait pas de la fin qu'il attendait. « Je mourrai martyr, » disait-il. Des amis qui allèrent le voir à Saint-Benoît durant l'occupation, m'affirmèrent qu'il portait l'étoile jaune des Juifs avec un besoin à la fois de mortification et de provocation qui était dans son caractère. Cette fois, la mortification était par trop cruelle. En effet, « Qui a vu le crapaud traverser une rue ?» écrivait-il dans un de ses derniers poèmes en prose. « C'est un tout petit homme. » Une poupée n'est pas plus minuscule. Il se traîne sur les genoux. Il a honte, on dirait. Non. Il est rhumatisant. Une jambe reste en arrière, il la ramène. Où va-t-il ainsi? Il sort de l'égout, pauvre clone. Personne n'a remarqué ce crapaud dans la rue. Maintenant, les enfants se moquent de mon étoile jaune. Heureux crapaud, tu n'as pas d'étoile jaune. Comme d'autres, j'avais fait le voyage en 1939 afin de le rencontrer à l'abbaye. « Monsieur Max est à Châteauneuf, me fut-il répondu. » Or, j'étais descendu précisément à Châteauneuf, chez Feuille-aux-Bois, Et la première personne à qui je me heurtais dans la cour de l'hôtel était Max. « Ah, mon Dieu, toi !» s'exclama-t-il. Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre. Puis il fondit en larmes sans que je puisse l'en empêcher. « Alors, Max, on déjeune ensemble ?» lui proposai-je sa première émotion passée. « C'est que je ne peux pas, » répondit-il. « Je suis ici avec des gens qui ont tenu à m'inviter. »« Eh bien, présente-les-moi. » »« Non pas, » fit-il avec toute sa malice. « Sa charmante perfidie d'antan. » Ce ne sont point des gens que l'on présente, mais que l'on subit pour des raisons que tu devines. Et il pouffa de rire, s'attendrit de nouveau à l'idée que nous allions prendre notre repas dans la même salle, sans pouvoir ébaucher la moindre conversation, puis chuchota, plein d'astuces, « Tant pis, nous échangerons des signes. » Il avait toujours eu ce besoin, cette manie de vous mettre dans le secret de ses mystifications. À Montmartre, où il n'était point rare de rencontrer chez lui de jolies femmes très élégantes, des snobs, de jeunes poètes ou d'humbles ménagères, il nous avait appris que le degré de sa sympathie se mesurait à la longueur, non de la dédicace qu'on le priait d'inscrire sur l'un de ses ouvrages, mais du paraphe dont il l'accompagnait. Certains occupaient toute la page, mais comme il est d'usage d'apprécier le sens d'une dédicace aux termes plus ou moins flatteurs qui la composent, on avait souvent l'impression qu'il se moquait de tous. Ce jour-là, cependant, après avoir fait bonne chère, Max abrégea les formules de politesse et nous le ramenâmes en voiture à Saint-Benoît. Il occupait dans une gargote près de l'église une chambre qu'on ne pouvait atteindre qu'en traversant une partie des cuisines. Mais il n'en paraissait nullement incommodé. Un accident d'auto lui permettait de vivre de la modeste rente qu'une compagnie d'assurance lui versait régulièrement. Il prétendait que la Providence l'avait jeté sous les roues d'une voiture, afin de lui permettre de se consacrer au salut de son âme sans souci de la matérielle. Car, s'était-il empressé d'ajouter, les droits que mes éditeurs m'envoient quand ils y pensent n'auraient suffi qu'à me laisser mourir de faim. Ensuite visiter l'abbaye, s'agenouillant fréquemment sur les dalles et multipliant les génuflexions et signes de croix. Si je ne l'avais connu depuis de longues années, j'aurais pu le soupçonner peut-être d'exagérer, mais le plaisir que lui procurait ma visite l'obligeait, certifiait-il, à remercier le bon Dieu par de plus nombreuses dévotions. Tu sais que Picasso est venu m'offrir de loger sous son toit durant la guerre, murmura-t-il à la sortie. « C'est très gentil. J'ai refusé. Pourquoi donc ? Je prierai mal dans ce milieu. Trop de souvenirs de nos anciennes folies m'éloigneraient de la ligne de conduite que je me suis tracée. Tu connais notre cher Pablo. Il est le démon, je veux dire l'homme le plus intelligent et le plus insensible qui soit. J'en ai peur. Il me paralyse. Et puis, je m'embêterai loin de Saint-Benoît. Avoue plutôt que c'est de toi que tu as peur. » Il baissa pieusement les yeux et soupira. « De moi aussi, bien sûr. Il faut souvent si peu de choses pour succomber. Ici, je suis entre les mains de Dieu et par conséquent, rien à craindre. Mais à Paris, non. D'ailleurs, cessons, si tu le veux bien, d'insister sur ce point. Je n'en dormirai pas de la nuit. » Il nous raccompagna jusqu'à l'auto, baisa la main de ma femme. « Reviendrez-vous ? » ?»« Oui, bientôt, Max. » »« Et cette fois, nous déjeunerons ensemble, chez Feuille au bois, promis. » »« Mais certainement. » »« Allons. » »« Adieu, » dit-il, comme la voiture démarrait. « Adieu. » »« Adieu. » Je ne devais plus le revoir. C'était lui qui avait raison.
Oh,
Vous venez d'entendre Francis Carco évoquer son ami Max Jacob pour Ombre vivante, diffusée pour la première fois le 6 novembre 1947. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Chargé de fleurs, je suis entrée dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas, et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis restée toute seule et j'ai pleuré tout bas, en écoutant hurler la plainte des frimas. Sombre dimanche, je mourrai un dimanche où j'aurai trop souffert. Alors tu reviendras, mais je serai parti. Des cierges brûleront comme un ardent espoir, et pour toi, sains et forts, mes yeux seront ouverts. N'aie pas peur, mon amour, s'ils ne peuvent te voir, ils te diront que je t'aimais plus que ma vie. Sombre dimanche, ils te diront.